Vous écoutez Radio France Internationale. Il est 6h tout pile à Paris, 2h de moins en temps universel. Et c'est un jour, nouveau journal d'information internationale avec vous, Jeanne Bartoli. Bonjour.
Et bonjour Vincent et bonjour à tous. Dans ce journal, un coup majeur porté à l'économie mondiale. Donald Trump a dévoilé hier soir des taxes douanières historiques qui s'appliqueront à partir de samedi à quasiment toute la planète. Annonce présentée comme une libération de l'Amérique. L'addition est notamment astronomique pour la Chine, dont les produits seront bientôt taxés à 54% aux États-Unis. Les bourses asiatiques dévissent. Ce matin, la Chine et l'Europe font part de leur colère. En revanche, le Mexique fait partie des rares pays qui s'en sortent plutôt bien. Nous sommes à Mexico dans un instant. À suivre également dans ce journal, la colère des Haïtiens face à l'explosion de la violence des gangs. Une manifestation avait lieu hier à Port-au-Prince. On vous parle aussi de ces réservistes israéliens qui refusent d'aller combattre à Gaza. Et puis en France, ils font office d'exception à gauche. Les Insoumis ont fait part de leur réserve au moment de la condamnation de Marine Le Pen. Un coup de massue donc asséné hier soir par Donald Trump. Le président américain annonce des droits de douane historiques et globaux. D'abord une taxe quasi généralisée de 10% pour tous les pays à partir de samedi, auxquels s'ajoutent les droits de douane déjà en vigueur. Et puis des droits de douane majorés pour 60 pays qu'on se présentait comme les pires contrevenants. Une mesure qui entrera en vigueur cette fois le 9 avril. Donald Trump qui a présenté ses annonces comme le jour de la libération de l'Amérique.
My fellow Americans, this is... Chers Américains, c'est le jour de la libération, attendu depuis longtemps. Le 2 avril 2025 sera à jamais gravé dans les mémoires comme le jour de la renaissance de l'industrie américaine, le jour de la reconquête du destin de l'Amérique et le jour où nous avons commencé à rendre sa richesse à l'Amérique.
Voilà Donald Trump qui frappe fort, notamment à l'encontre de la Chine. L'addition est particulièrement salée pour le géant chinois. 34% de droits de douane cumulés avec les 20% déjà mis en place depuis l'investiture de Donald Trump. Cela veut dire que tous les produits importés de Chine seront bientôt taxés à 54% aux États-Unis, 20% au total pour l'Union européenne. Alors il y a tout de même quelques pays épargnés, notamment le Mexique qui s'en sort plutôt bien, mais qui va de toute façon pâtir des conséquences mondiales de ces annonces. À Mexico, Gwendolina Duval.
Si cette fois-ci le Mexique bénéficie d'un traitement à part, c'est tout simplement parce que Donald Trump avait déjà instauré des taxes sur ses partenaires nord-américains, à travers des décrets d'urgence liés à la lutte contre le trafic de drogue et à la migration. 25% de frais de douane s'appliquent déjà depuis mi-mars sur les exportations d'acier et d'aluminium, 25% aussi sur des produits qui ne rentrent pas dans le cadre de l'accord de libre-échange entre le Mexique, les États-Unis et le Canada, soit parce qu'ils en sont exclus, soit parce qu'ils ne répondent pas aux normes imposées par le traité. Il s'agirait tout de même d'environ la moitié des exportations mexicaines. Donc en fin de compte, le pays est déjà au cœur de cette guerre commerciale. Pour rappel, son commerce extérieur dépend à 80% des États-Unis. L'économie et plus spécifiquement le secteur automobile s'apprête à être particulièrement touché par la nouvelle règle de 25% de frais douaniers sur les véhicules fabriqués à l'étranger. Sauf que sur ce point, Donald Trump a accordé un traitement de faveur envers le Mexique. Ces véhicules seront taxés partiellement en fonction de la proportion de composants étrangers qu'ils comprennent. Gwendolina Duval, Mexico, RFI.
Et quelques heures à peine après ces annonces américaines, les bourses asiatiques sont en train de dévisser les unes après les autres. L'indice phare de la bourse de Hanoï, le VN Index, plombé par la dégringolade des sous-traitants de l'industrie textile qui fournissent notamment Nike et d'autres groupes américains. Les pays asiatiques, on le disait, fortement touchés par ces nouveaux droits de douane. 24% pour le Japon, 26% pour l'Inde, 46% pour le Vietnam. Taïwan dénonce un instant des droits de douane totalement déraisonnables. Écoutez l'économiste Pascal de Lima.
L'impact, évidemment, est très fort. D'ailleurs, il s'en est pas caché. Taïwan, la Corée, le Japon, le Vietnam, c'est une baisse des exportations de ces pays-là vers les États-Unis, notamment dans le domaine technologique, dans l'électronique et le textile pour le Vietnam et Taïwan, avec un risque d'escalade fort avec la Chine, qui est déjà sous sanctions technologiques au niveau des puces et de l'intelligence artificielle. L'Indonésie prend également cher des économies qui étaient en train de se transformer et en train de reprendre un peu du poil de la bête. Donc c'est vraiment toutes ces plaques tectoniques mondiales qui sont impactées aujourd'hui.
Pascal de Lima, chef économiste chez CGI Business Consulting, interrogé par Agnieszka Kumor. La réaction de la Chine, elle ne s'est pas fait attendre. Pékin exhorte les États-Unis à annuler immédiatement ces nouveaux droits de douane et à résoudre de manière, je cite, appropriée les différends avec ses partenaires commerciaux par le biais d'un dialogue équitable. Réaction du ministère du commerce chinois, même son de cloche côté européen. La présidente de la Commission européenne estime que les nouveaux droits de douane sont un coup dur pour l'économie mondiale. Ursula von der Leyen dit ce matin regretter profondément cette décision. Elle affirme que les Européens sont prêts à réagir et travaillent déjà à un nouveau paquet de contre-mesures. On va revenir évidemment ce matin en longueur sur les conséquences de ces annonces américaines dans la une en Asie, dont aujourd'hui l'économie, et puis l'invité de la matinale d'RFI, Roland Lescure, député pour la République des Français d'Amérique du Nord, également vice-président de l'Assemblée nationale. L'actualité qui nous emmène également ce jeudi en Haïti, où la colère gronde à Port-au-Prince. Plusieurs milliers de manifestants ont investi hier les rues pour dénoncer la montée fulgurante de l'insécurité qui frappe la capitale haïtienne et plusieurs villes de province. Venant de Turgeau, Paco, Debussy, Canapé-Vert et même Pétionville, les citoyens étaient mobilisés pour cette journée de protestation qu'a suivi Peterson Luxama.
Dès les premières heures de la matinée, les manifestants sont déjà sur pied de guerre. Machettes, pancartes à la main, une foule immense est rassemblée à Canapé Vert. Le chef de la brigade d'autodéfense de cette zone mobilise les citoyens.
Grenadiers à l'assaut ! Est-ce que nous sommes motivés ? Aujourd'hui, nous devons entrer à la primature. Aujourd'hui, il faut entrer à la villa d'accueil.
Après le rassemblement, la foule prend la direction de Musso à Bourdon, où se trouve la villa d'accueil et la résidence du Premier ministre. Tout au long du parcours, les manifestants ont exprimé leur colère contre l'insécurité, affirmant qu'il n'est pas question de livrer leur quartier aux bandits, comme l'explique cet habitant de Fort National.
Les habitants de Cris-Roi, Bourdon, Turgeau et Debussy, nous nous battons contre les gangs et les kidnappeurs. Ils ne pourront pas tous nous tuer. Je ne peux pas dormir, ma maison a été incendiée et je vis avec une balle dans le corps.
Arriver à la villa d'accueil n'était pas chose aisée pour les manifestants. Le dispositif de sécurité établi dans les périmètres était de taille, les policiers allant jusqu'à faire usage de gaz lacrymogène, mettant les nerfs des manifestants à fleur de peau. Ce citoyen critique l'attitude des policiers.
Il y a un groupe de policiers qu'on ne voit jamais lorsque les bandits attaquent la population. Mais dès qu'il y a une manifestation, ils utilisent des balles et des gaz lacrymogènes. Pourtant, quand les bandits s'emparent de territoire, ils restent invisibles.
Ce mouvement de protestation a paralysé les activités dans la région métropolitaine. À Pétionville et à Delma, tout était au point mort. Peterson Luxama, Port-au-Prince, RFI.
RFI, 6h passées de 8 minutes au Proche-Orient. À présent, le Hamas rejette la dernière contre-offre israélienne dans les négociations indirectes en vue de rétablir une trêve à Gaza et de libérer les otages israéliens en échange de prisonniers palestiniens. Déclaration faite à l'agence France-Presse par deux responsables du mouvement islamiste malgré la pression militaire israélienne. Israël qui annonçait hier vouloir s'emparer de larges zones de la bande de Gaza, mais l'armée israélienne, qui repose en grande partie sur les réservistes, est-elle capable d'étendre encore plus ses opérations dans la bande de Gaza? Selon le journal israélien Haaretz, certaines unités de l'armée comptent aujourd'hui jusqu'à 50% d'effectifs en moins. Les soldats refusent de se présenter au service. Certains invoquent des questions d'ordre moral, d'autres se disent simplement épuisés. À Jérusalem, Sami Boukhelifa.
Chaim Harzahav fait partie des près de 360 000 réservistes israéliens mobilisés après le 7 octobre.
Israël a été attaqué. J'étais convaincu qu'il fallait se battre.
À deux reprises, il est déployé dans l'enclave palestinienne.
En tout, j'ai passé 254 jours à Gaza, en l'espace d'une année et deux mois.
Sa mission, évacuer les soldats blessés.
Après mon deuxième séjour à Gaza, j'ai réalisé qu'il n'y avait pas vraiment d'objectif, que les otages ne seraient pas libérés parce que le gouvernement israélien ne faisait rien pour ça. Alors que moi, je m'étais engagé dans ce but, pour libérer les otages.
Chaim Harzahav ne reste pas non plus insensible au sort des Palestiniens.
À l'armée, l'état d'esprit général est que les Palestiniens de Gaza sont des simples dommages collatéraux. Mais pour moi, les civils, même s'ils sont dans le camp ennemi, restent des civils.
Plus de 50 000 Gazaouis ont été tués par Israël depuis le début de la guerre, mais ce n'est pas pour cette raison que cet autre réserviste israélien, Raz, a décidé de ne plus retourner à l'armée.
Quand tu vas à la guerre, t'as peur de pas revenir. J'étais à Gaza plus de 100 jours, physiquement et mentalement c'est très très dur. Tu ne dors pas, tu ne manges pas, il y a beaucoup de maladies. À chaque fois que j'étais là-bas, mes parents et toute ma famille étaient très anxieux. Aller se battre, c'est trop pour moi en ce moment.
À Gaza, Israël est engagé dans la plus longue guerre de son histoire, une guerre dont 70% des victimes sont des femmes et des enfants, selon l'ONU. Sami Brouf à Jérusalem, RFI.
Il est le nouveau monsieur Afrique de l'administration Trump, à peine nommé le conseiller principal pour l'Afrique. Massad Boulos est arrivé en République démocratique du Congo, une tournée qui doit le conduire aussi au Rwanda, au Kenya et en Ouganda. À Kinshasa, il doit rencontrer le président congolais Félix Tshisekedi. Précision avec Pauline Azidi.
Récemment nommé, c'est donc en RDC que le nouveau conseiller fait son premier déplacement sur le continent. Ça dénote un intérêt et ou une urgence de la situation, estime-t-on, du côté de la présidence congolaise. Et Massad Boulos n'est pas arrivé seul, puisqu'il est accompagné de la sous-secrétaire d'État américaine Corinna Sanders. Au programme de cette visite, nous sommes obligés de parler de la guerre, explique un proche du président Tshisekedi. La situation à l'Est sera donc au cœur de l'entretien que le chef de l'État doit accorder aux deux représentants américains. Mais il sera aussi question de business, ajoute notre source. Il faut notamment évoquer le corridor de Lobito, ce projet porté par l'ancienne administration Biden qui prévoit la construction d'une ligne ferroviaire pour relier la Zambie à l'Atlantique via la RDC et l'Angola afin d'exploiter les ressources minières. Mais tout va ensemble, nuance un proche du dossier, puisque ce genre de projet ne peut fonctionner qu'avec la sécurité. Une allusion au partenariat minier en discussion entre Kinshasa et Washington. Les États-Unis pourraient apporter une aide à la sécurité en échange d'une facilité d'accès aux minerais rares qui se trouvent dans le pays. Pauline Azidi, Kinshasa, RFI.
Et enfin, en France, ils font office d'exception à gauche. Les Insoumis ont fait part de leurs réserves au moment de la condamnation de Marine Le Pen à 5 ans d'inéligibilité avec exécution immédiate. Un moyen détourné, selon eux, de battre le Rassemblement National autrement que par les urnes. Mais le signe aussi d'une inquiétude quant à l'avenir judiciaire de Jean-Luc Mélenchon, Aurélien de Vernois.
La destitution d'un élu devrait revenir au peuple, regrette Jean-Luc Mélenchon dans un message sur les réseaux sociaux après l'annonce de la condamnation de Marine Le Pen. Une référence à une proposition portée par les Insoumis, celle d'un référendum révocatoire qui permettrait de destituer un élu en cours de mandat par consultation des électeurs. Mais cela fait surtout longtemps que le leader insoumis s'insurge contre ce qu'il appelle le lawfare, la disqualification politique par la condamnation judiciaire, s'appuyant notamment sur les déboires connus par les présidents brésiliens Lula et Dilma Rousseff. Il y a aussi une explication moins théorique. Jean-Luc Mélenchon est lui-même visé depuis 2018 par une information judiciaire concernant l'utilisation de certains de ses assistants parlementaires quand il était député européen entre 2019 et 2017. La perspective pour l'instant hypothétique d'un procès inquiète dans les rangs insoumis. Si Marine Le Pen écope de 5 ans d'inéligibilité, Jean-Luc risque également gros, confie un cadre du mouvement qui poursuit. On ne veut pas être paranoïaque, mais si la procédure judiciaire redémarre rapidement, ça pourrait l'empêcher d'être candidat à la présidentielle.
Aurélien de Vernois du service politique d'RFI. 6h13 à l'écoute de la Radio du Monde. Vous restez avec nous dans le prochain quart d'heure. On va continuer de parler de ces droits de douane mondiaux annoncés par Donald Trump hier soir. Un séisme économique et un risque de récession mondiale. C'est l'avis d'Éric Dor, directeur des études économiques à l'ISEG. Il était au micro hier d'Anne Verdaguer.
Cela va rendre extrêmement coûteux les biens étrangers en provenance de la plupart des pays, et spécialement des gros partenaires commerciaux comme la Chine et l'Union européenne. Ça va rendre ces produits très coûteux pour les consommateurs américains et pour les entreprises américaines qui les achètent. Cela va avoir un effet inflationniste aux États-Unis, puisque tout ça va se répercuter sur les prix de vente aux consommateurs. Ça va se répercuter sur le coût de production des entreprises américaines et donc finalement sur les prix qu'elles vont devoir facturer à leurs clients. Évidemment, en même temps, ces hausses de prix vont restreindre la demande aux États-Unis. Donc, il va y avoir un effet récessif assez fort aux États-Unis, mais qui va se transmettre au reste du monde, puisque inévitablement, avec de telles hausses de prix, une fois qu'on y inclut les droits de douane, la demande de biens étrangers va diminuer. Ce qui veut donc dire que pour les grands partenaires commerciaux, comme par exemple l'Union européenne, comme par exemple la Chine, eh bien, on va exporter moins vers les États-Unis. Donc il va y avoir une baisse de production, une baisse d'emploi, il va y avoir un effet récessif qui va se transmettre à toute la planète. D'ailleurs, il y a pas mal de centres de recherche dans le monde qui avaient commencé à essayer d'estimer l'impact qu'auraient différents scénarios de hausse des droits de douane de M. Trump. Et tous ces scénarios convergent vers la même conclusion, c'est qu'il y a un effet récessif mondial, il y a un effet inflationniste, mais c'est surtout aux États-Unis que l'effet récessif et l'effet inflationniste est le plus élevé. D'une certaine manière, quoi qu'ils en disent, et bien qu'ils s'en défendent, Donald Trump marque un peu contre son propre camp.
Quelle peut être la réponse des pays les plus touchés par ces taxes douanières et auront-ils seulement les moyens de rétorquer ?
Effectivement, nous allons être obligés, en Europe, en Chine, ailleurs, de prendre des mesures qui vont nous faire mal à nous-mêmes, évidemment, puisque si nous augmentons le prix des biens américains importés, si nous mettons des restrictions sur les services américains en Europe, qui concernent entre autres les GAFAM, les réseaux sociaux, les logiciels informatiques, etc., bien, sans doute allons-nous augmenter un peu le coût de ces services pour nos propres consommateurs, ce qui va encore ajouter du marasme au marasme, mais nous n'avons pas beaucoup le choix. On ne peut pas simplement capituler, parce qu'alors on ne sait pas jusqu'où l'administration américaine pourrait continuer à faire pression sur nous. Donc je pense que nous sommes partis pour une période géopolitique assez troublée, avec des conséquences économiques malheureusement délétères.
L'économiste Éric Dor sur la riposte européenne aux nouveaux droits de douane américains, entretien et dossier complet que vous retrouvez sur notre site RFI.fr. En Turquie, à présent, plus de 300 manifestants toujours détenus après les arrestations massives qui ont suivi l'incarcération du maire déchu d'Istanbul, Ekrem İmamoğlu. Des étudiants, pour la plupart, qui encourent jusqu'à 3 ans de prison pour participation à des manifestations non autorisées. Leurs proches et leurs avocats dénoncent leurs conditions de détention et demandent leur libération immédiate. Reportage de nos envoyés spéciaux Bertrand Eclair et Daniel Valou.
Nafia Tanriverdi, elle est très tirée malgré le maquillage. Depuis 10 jours et l'arrestation de son frère Baki, cette jeune comédienne n'a cessé de se battre pour lui venir en aide.
Après l'incarcération d'Ekrem İmamoğlu, mon frère a rejoint les manifestants. Et ensuite, nous n'avons pas eu de nouvelles de lui pendant 2 jours. Nous avons pensé au pire des scénarios. Nous l'avons cherché partout, en allant dans les commissariats. Et finalement, nous l'avons trouvé à la fin du 2e jour. On ne s'attendait pas du tout à ce qu'il soit arrêté. Nous avons donc été très choqués.
Le jeune homme n'avait jamais participé à une manifestation de sa vie et il risque désormais de 6 mois à 3 années de prison. Sa vie a basculé comme celle de plus de 300 personnes arrêtées durant les manifestations. L'avocate Bedia Buryukebiz dénonce un abus de pouvoir et une procédure entachée d'illégalité.
Ils ont été arrêtés pour avoir refusé de se disperser à l'issue d'une manifestation non autorisée. Mais d'après la loi, ils ne devraient pas être incarcérés jusqu'à leur procès. Et pour nous, il s'agit d'arrestations illégales. La réalité, c'est que le gouvernement a peur des manifestations et ne veut pas qu'elles continuent. Il veut effrayer les étudiants et leurs parents en leur disant « Ne sortez pas de chez vous, n'allez pas dans la rue, sinon on vous arrêtera. »
Une peur alimentée par les récits des mauvais traitements subis en détention, coups, insultes, humiliations. Une peur nourrie également par les arrestations au petit matin, au domicile des manifestants. Cette étudiante nous confie se réveiller tous les jours avec cette angoisse, voir débarquer les policiers à son domicile.
Comment la police trouve-t-elle les adresses ? Eh bien, ils doivent scanner les images filmées pendant les manifs avec la reconnaissance faciale. Et nous, pour éviter ça, eh bien, nous avons trouvé la solution. Porter des masques.
Dans ce parc d'Istanbul, à l'écart des caméras, une poignée d'étudiants discutent de la conduite à tenir en cas d'interpellation. Ils échangent des conseils et des contacts d'avocats.
Oui, nous avons tous peur, en particulier les femmes, parce que nous avons vu et entendu que la police était particulièrement dure avec les femmes. Cela me fait peur, mais cela ne m'a pas empêché de rejoindre les manifestations. Je n'aurais pas pu rester chez moi à la maison sans rien faire. Il fallait nous battre pour notre avenir et contre l'injustice.
Car il n'est pas question d'abandonner la contestation. D'ailleurs, à la libération d'Ekrem Imamoglu s'ajoute désormais une autre revendication. La remise en liberté des 300 personnes arrêtées durant les manifestations. Bertrand Eclair, Daniel Valo, Istanbul, RFI.
Hier, le groupe britannique Muse a lui annoncé l'annulation de son concert prévu le 11 juin prochain à Istanbul à l'appel de ses fans qui accusaient l'organisateur de soutenir le pouvoir turc. Un monde en crise face auquel il faut trouver des solutions. Le Festival d'Avignon 2025 a dévoilé sa programmation. Il se tiendra du 5 au 26 juillet prochain. L'invité culture d'RFI ce matin, Thiago Rodriguez, directeur du festival, il est au micro de Muriel Malouf.
Thiago Rodriguez, vous venez de dévoiler le programme du prochain Festival d'Avignon avec cette année, après l'anglais et l'espagnol, l'arabe comme langue invitée pour cette édition.
C'est une des envies que nous avions en invitant des langues au festival, c'est d'un côté de dire au monde que à partir d'Avignon, nous regardons le monde plutôt lié, connecté, par des langues que divisées par des frontières et des nationalités. Après l'anglais et l'espagnol, les deux dernières années, on essaie de célébrer la diversité des arts vivants liés à la langue arabe avec des spectacles qui viennent de plusieurs pays, évidemment en sachant que ça serait toujours impossible de faire une programmation encyclopédique qui fait le portrait complet historique d'une langue. C'est pas non plus ça l'objectif. L'objectif, c'est de être inspiré à une recherche, à une pratique de curiosité à cause d'une langue, de spectacle, mais pas seulement, aussi de cinéma, de littérature, de pensée, de philosophie, de musique, de poésie.
La poésie, donc, qui est une des grandes richesses hein, de la culture arabe, la poésie, celle de Mahmoud Darwish, est en quelque sorte la devise du festival.
Oui, Mahmoud Darwish, en tant qu'un des grands poètes contemporains de langue arabe, il nous accompagne cette année. Le texte d'ouverture de notre programme, j'ai profité d'un vers de Mahmoud Darwish, qui pour moi est aussi une inspiration pour comment construire une programmation, soit avec la langue arabe ou sans langue arabe, n'importe quelle programmation. C'est cette idée de ce vers très beau de Mahmoud Darwish qui dit « Je suis toi dans les mots ». Je m'excuse de ne pas être capable de le dire en arabe, mais c'est un vers qui me touche énormément. « Je suis toi dans les mots », cette idée que on peut devenir l'autre. Et ce devenir l'autre, c'est jouer à ce jeu ludique aussi, d'être quelqu'un d'autre, mais de pratiquer une curiosité en respect et plus que ça, en amour de la différence. Et je pense que cet amour de la différence sera au cœur de cette édition du Festival d'Avignon.
Et les événements phares en dehors de la langue arabe, il y a la Comédie française donc qui revient cette année avec une pièce emblématique hein, au festival.
Un des grands événements de cette année sera sans doute la présentation du Soulier de Satin de Paul Claudel dans la mise en scène sublime de Eric Ruff pour la magnifique troupe de la Comédie française à la cour d'honneur du Palais des Papes, qui est en geste d'un spectacle fleuve d'une nuit entière jusqu'à l'aube avec ce spectacle formidable, mais aussi une forme de dialogue avec l'histoire du Festival d'Avignon, car un des grands monuments de la mémoire de ce festival est la mise en scène de 87 d'Antoine Vitesse, précisément de ce texte de Claudel.
Vous serez vous-même en tant que directeur, mais aussi en tant que metteur en scène, avec une pièce dystopique cette fois.
La pièce que je présenterai est une pièce d'anticipation qui se projette à l'avenir en 2077. Je ne sais pas encore, parce que j'écris pendant les répétitions avec et pour les comédiens, si ça sera une pièce vraiment dystopique ou utopique, mais c'est vraiment une pièce qui imagine un avenir.
Merci Thiago Rodriguez.
Merci beaucoup. À très bientôt à Avignon.
Entretien signé Muriel Malouf.
Le Conseil Santé avec Sounou Assurance.
Voilà, et Caroline Paré qui nous parle aujourd'hui d'abstinence.
Aujourd'hui, priorité santé spéciale sexualité, un 50 minutes pour poser toutes vos questions en direct avec, à votre écoute, la sexologue de l'émission, Noëlle Caillard-Cy, bonjour.
Bonjour.
Aujourd'hui, les auditrices, les auditeurs vont échanger avec vous sur un sujet bien particulier, l'abstinence, qu'elle soit choisie ou subie. Quand on parle d'abstinence, Noëlle Caillard-Cy, on peut comprendre plusieurs choses derrière ce terme.
Tout à fait, parce que la sexualité, elle se représente de façon différente d'un individu à l'autre. Donc l'abstinence, déjà, c'est la période au cours de laquelle où il n'y a pas d'activité sexuelle, où il n'y a pas de relation. Mais celle-ci, elle peut être pénétrante pour certains, et rien du tout pour d'autres, on va dire.
Alors, il y a la notion de choix, hein, on l'a dit, subi ou choisi, et ça va entraîner, d'un côté ou de l'autre, un sentiment de frustration.
Voilà, un sentiment de frustration, de manque, d'incompréhension. Lorsqu'on choisit quelque chose, c'est que quelque part, il y a suffisamment d'éléments dans l'environnement pour compenser, justement, ou pour pallier à ces frustrations. Quand elle est subie, il y a déjà un sentiment de mal-être qui peut être déjà sous-jacent.
Avec la question de la durée, des personnes qui peuvent s'inquiéter, abstinent depuis une semaine, un mois, un an, ça change les choses.
Ça change les choses. Si c'est une abstinence choisie dans le cadre d'un couple, donc on n'est pas célibataire, si la communication, c'est un mot auquel j'attache beaucoup, beaucoup d'importance, on en a discuté, où il y a un contexte qui fait qu'on n'a pas de rapport sexuel, il n'y a pas de sujet. Mais si on n'en discute pas, si on est dans quelque chose où justement on a l'impression d'être obligé, ça peut cristalliser les relations.
Donc on va en parler plus longuement tout à l'heure dans Noëlle Caillard-Cy. Pour poser vos questions, le numéro de l'émission sur WhatsApp, c'est le 33 7 61 18 46 41. On se dit à tout à l'heure. Le rendez-vous, c'est 9h10, temps universel. Le rendez-vous est pris.
Et à tout à l'heure, c'était Caroline Paré sur RFI. Vous restez avec nous. Le journal, ce sera dans un peu plus de 3 minutes. Mais avant, musique ce matin avec la playlist RFI. On écoute Wassav, le James, c'est Mikado.
Wassavala, j'aime sa gagne si mélodie, faut passer la CIA, musique en ICD, bah mais ça fait, voyez retourne pas payer, musique bah moun qui aime, moun passe cochonni, wassavance en bandit, en laissant en café d'élite, hey moi dit tonton Jackie, que douci en camanti, pendant yo les magies, bien dit pour yo dans le déni, moi en la poupe musique, si ou pas sa vous qu'étonne li, si ou pas sa voix sa, ok sa, pas fun, ok sa, sa, si ou pas sa voix sa, ok sa, pas fun, si ou pas sa voix sa, ok sa, pas fun, ok sa, sa, si ou pas sa voix sa, ok sa, pas fun. Un fois bas sa mitan tête ou grand maman prend nous pour malade, mais pas fait chata sa, bas s'arrêter raconter salade. En poser la kouibi, la kajompi à de palace, et qu'on s'est messieurs pani, ou besoin fausse compagnie. Gachiline bi sexy mi ou rive à bomini, pendant ces messieurs écrit kavri ou un chop à la pli, et tout ça qui prépare, yon kadi yon toute la tempi, en rete pri en sud la kagade men e belle la vie, nous kapote mon ev. Si ou pas sa voix sa, ok sa, pas fun, ok sa, sa. Si ou pas sa voix sa, ok sa, pas fun. Si ou pas sa voix sa, ok sa, pas fun, ok sa, sa. Si ou pas sa voix sa, ok sa, pas fun. Rétro chat, la cabo frisson qu'on glace, la cabane tête ou qu'on craque, la pifo brené qu'on salsa. Mais c'est pas tout ça, l'autre en travail pour ça, avec ça qui bat moins force, la ni discipline en tout ça. Pour l'opli 5 fois café coulé, pour l'opli 5 fois la feuille coulé, pour l'opli 5 fois café coulé, pour l'opli 5 fois la feuille coulé. Si ou pas sa voix sa, ok sa, pas fun, ok sa, sa. Si ou pas sa voix sa, ok sa, pas fun. Si ou pas sa voix sa, ok sa, pas fun, ok sa, sa. Si ou pas sa voix sa, ok sa, pas fun. Un fois bas sa mitan tête ou grand maman prend nous pour malade, pe pa fait chata sa, bas s'arrêter raconter salade. En poser la kouibi, la kajompi à de palace, et qu'on s'aime c'est pas ni ou bisou fausse compagnie. Ou à s'avancer en bandit, en laissant en café d'élite, aïe m'a dit tonton Jacques, et douce en camanti. Pendant yo ou les magies, bien dit pour yo dans le déni, mais on la poupe musique, si ou pas sa, vous qui donne li. Nous capote mon ev.
Le
le Djem, c'est Mikado Wassav dans la playlist RFI que vous retrouvez à tout moment sur le site musique.rfi.fr. Vous restez avec nous sur la radio du monde. Une courte pause et puis ce sera le retour de l'info avec le journal de Nemo en Peace.
Ce jeudi sur RFI.
Accent d'Europe vous propose de partager la vie des Européens. Frédéric Lebel.
Face au désengagement américain, les Européens veulent augmenter le nombre de soldats professionnels et réservistes. En Belgique, le service militaire sera réintroduit dès 2026 sur la base du volontariat et l'armée cherche à recruter de nouveaux soldats.
Accent d'Europe, du lundi au jeudi à 17h10 sur RFI.